Lyon demain, créateur d'envie.
L'orangerie du parc de la Tête d'Or abrite chaque hiver les plantes tropicales du jardin botanique. Mais dans la période estivale, les 500 mètres carrés de l'orangerie sont confiés à plusieurs artistes qui se succèdent pour offrir leur univers créatif aux promeneurs et aux curieux. Et dans le cadre du festival entre Rhône et Saône, une expo photo ne passe pas inaperçue. Dérive est un projet immersif qui explore le fleuve et ses affluents comme des espaces vivants, mouvants, traversés de récits. Près de 150 photos sont ainsi exposées à l'orangerie jusqu'au 1er juillet. L'exposition présente distinctement les œuvres de deux artistes. D'un côté, Loïc Xavier, lui a regroupé ses photographies sous l'appellation « S'il pouvait parler », une allusion au bord du Rhône, mais aussi aux arbres. Nous avons rencontré l'artiste.
J'ai toujours eu un attrait pour le paysage, photographique notamment. Et depuis, on va dire à peu près 8 ans, je photographie principalement, en tout cas, le paysage à la chambre photographique pour différentes raisons. Déjà, l'outil me permet d'éprouver le paysage, de m'ancrer au sol, du coup de m'obliger à ressentir véritablement le paysage et de poser mon regard un peu différemment sur le paysage. C'est un outil à la fois contraignant, mais c'est un outil qui m'aide énormément à poser mon regard. Après, dans ma démarche, oui, c'est le paysage et en même temps les abstractions dans le paysage, tous les contrastes voilà, qu'on va retrouver. Puis après, c'est des choses qui sont, on va dire, un peu transversales à la photographie en règle générale. Voilà. Parlant du contraste, de la lumière, bien évidemment. Voilà.
Le fleuve, vous le présentez comment alors? Les deux fleuves d'ailleurs,
non? Alors, les deux fleuves, tout à fait. Alors, moi, c'est vraiment l'image du fleuve avec un F majuscule. Et il s'avère que je suis originaire de Roanne, donc dans la Loire, et j'habite à Lyon depuis déjà 25 ans à peu près. J'ai toujours habité à proximité du fleuve et j'ai toujours été intéressé par ailleurs, parallèlement, au paysage. Là, quand j'ai commencé avec Chloé à faire ce projet autour du fleuve, j'ai fait forcément des photos de fleuve, ou en tout cas mes photos représentaient de façon très stricte le fleuve. Et j'ai assez vite été confronté au fait que mes photos n'apportent de toute façon pas grand chose, dans la mesure où le fleuve a été énormément représenté et de façon divine. Et en fait, je me retrouvais un peu confronté à des maîtres en photographie. Il y en a plein, j'en citerai pas spécialement, mais en tout cas il y en a plein, et je voulais pas ni les imiter ni forcément être comparé à eux, parce que la comparaison pour moi voilà n'aurait pas été forcément ma faveur, parce que voilà, j'avais ces idoles en tête. Et très vite, je me suis dit, il faut que je me recentre sur, en photographie en tout cas, qu'est-ce qui me motive, quel est mon tropisme dans la photographie, si c'est le paysage. Et je me suis rendu compte, en regardant d'un peu plus près mes photos, que c'était l'arbre. L'arbre était toujours présent, et j'avais tendance à aborder l'arbre comme un individu, comme un presque, alors je dirais pas jusqu'à un alter ego, mais en tout cas, voilà, comme un personnage vivant, mais au même titre voilà, qu'un être humain. Et donc très vite, j'ai détourné simplement ma chambre et je l'ai simplement tournée tout en étant sur la rive. Et au lieu de la tourner en bas vers le fleuve, je l'ai levée et le fleuve dans le dos, et je me suis intéressée en fait à l'arbre et également à la roche. Et en me disant que parler du fleuve, ce n'est pas que parler du cours d'eau, mais de tous les riverains, humains ou non humains.
Il y a un message dans cette expo ou pas?
Un message écologique, parce que c'est une question en tout cas qui est souvent revenue. Peut-être, j'ai envie de dire peut-être, parce que j'ai envie que chacun y perçoit ce qu'il a envie de percevoir. Avec la séquence de mes arbres en très grand format, j'ai cherché l'anthropomorphisme en fait de ces arbres. Et en les rendant un peu plus humains, c'est peut-être aussi apporter un regard sur ces individus. D'où le titre de ma série, S'il pouvait parler, qu'est-ce qu'il nous raconterait? Et en fait, on voit que des arbres sont vraiment mal en point, sont malades, sont desséchés. Pourtant, ils habitent à proximité du fleuve et on en découvre de plus en plus. Donc le message, en fait, pour moi, il va plutôt se situer là. C'est apprenons aussi à regarder la végétation avec un regard un peu plus équilibré, d'où se placerait en tout cas mon message.
Chloé Collin a baptisé « Divagation » ses œuvres présentées au parc. La jeune femme était avocate avant de se consacrer à la photo. Chloé nous raconte son parcours divagant.
Ça fait depuis 2012 quand même que je me suis reconvertie. Du coup, j'ai fait des études de sciences politiques où j'ai été aussi pas mal à l'international. J'étais toujours très intéressée quand même par l'art. Et j'ai organisé des projets d'expo pendant mes études qui n'avaient rien à voir. C'est un voyage en fait dans le cadre de mes études où après je suis devenue avocate en propriété intellectuelle, où j'ai fait une spécialisation en protection du patrimoine culturel et naturel, justement. Et j'ai fait un stage à Mexico, et c'est là que j'ai commencé à avoir envie de me lancer dans ma propre pratique artistique. et j'avais quelque chose, ça faisait longtemps quand même qu'il y avait quelque chose en moi, mais je me suis, disons, autorisée à me lancer dans quelque chose qui m'intéressait, et j'ai finalement continué à travailler beaucoup sur ces sujets de mémoire et de patrimoine naturel et culturel.
Ce que nous proposez ici à l'Orangerie du Parc, c'est cette fois-ci un travail sur l'eau.
Je suis passée de la mémoire du lien entre individu, identité, histoire et géographie d'un milieu urbain au milieu naturel, parce que j'ai déménagé déjà tout simplement à la campagne et que j'ai découvert un autre monde. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'était comment finalement les éléments et le territoire impactaient sur les individus et comment eux aussi ils avaient un impact sur le territoire. Et c'est comme ça, en étant, que je me suis d'abord intéressée à la forêt qui est omniprésente, là où je me trouvais, où j'ai vraiment questionné à la fois les légendes qu'il y a autour de la forêt et la place de la forêt dans le quotidien des gens. Progressivement, j'ai vu que l'eau avait une place très importante dans le coin, que tout le monde était fier, à la fois du Rhône, du fleuve, des cascades, des rivières très présentes dans l'Ain. Dans le Valromey, c'est la frontière de la Savoie, de la Haute-Savoie, qui m'a donné envie progressivement de creuser, et toujours quand même avec une dimension participative, parce que pour moi, à chaque fois, le lien avec les gens, pour me questionner, c'est essentiel de créer du lien avec les habitants pour comprendre aussi leurs relations, et ça m'aide moi aussi à avancer. Et donc chaque projet, je commence un peu par une sorte d'enquête et je mène des ateliers, des projets participatifs en lien avec les habitants, qui me permet à la fois de transmettre finalement mon savoir, de rencontrer des personnes et comprendre leur rapport au territoire. Mais progressivement, une fois que j'ai bien compris mon sujet et que j'ai créé du lien, j'essaye de retransformer cette matière en quelque chose de plus, on va dire, personnel, un peu fictif, on va dire, et plus dans la poésie. Et je me réinvente souvent un nouveau territoire qui mêle un peu tout ce que j'ai observé et tout ce que j'ai finalement dans ma tête. Donc le passage à l'eau, j'ai trouvé ça intéressant parce que déjà je trouve que c'est en lien avec la mémoire, parce que la mémoire, l'eau, elle coule, on dit, de manière circulaire, et d'ailleurs le Rhône, c'est tourné sur soi-même. Et du coup, pour moi, l'eau et ce mouvement circulaire a incarné vraiment la mémoire. Et l'eau qui a toujours été aussi présente depuis la création du monde, en fait, et même depuis la naissance.
Et il y a ce projet, divagation, c'est quoi là ?
L'eau, du coup, elle est souvent vue pour son aspect du lien avec justement de cette mémoire circulaire, mais aussi de tourner dans sa tête et de rêver. Quand j'ai appris que le mot divagation, que je ne savais pas, était en lien avec la question de la liberté de l'eau de couler, j'ai trouvé ça vraiment très poétique et c'est devenu mon point de départ. Et aussi, dans cette réflexion, j'ai commencé à creuser aussi donc l'eau sur le lien avec l'eau et les individus. Et on a commencé à créer des partenariats avec des spécialistes de l'eau, ce qu'on appelle souvent les gémapiens. C'est ceux qui gèrent en fait l'eau le long du Rhône. Donc on a travaillé comme ça avec la CNR, avec le syndicat du Rhône, avec le parc régional du Haut-Jura, et avec des structures qui traitaient l'eau. Et on a emmené des habitants prendre des photos dans ces zones. Et donc à chaque fois, nous, on découvrait ces zones. Et ça m'a permis un peu de mieux connaître les enjeux quand même autour de l'eau et de l'environnement. Et du coup, j'avais envie d'en parler, mais un peu plus de manière comme une fable. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre un personnage mythologique, mythique, on va dire, quel personnage d'Ondine. Donc j'ai un peu creusé aussi pour connaître les différentes histoires. Et je me suis réapproprié cette histoire, mais le long du Rhône. Et en imaginant que finalement, parce que quand j'ai fait une résidence le long du Rhône, c'était l'été, il faisait très chaud, il y avait des alertes canicules, et c'était très sec. Et du coup, je me suis imaginé Ondine qui ressort tous les étés et qui arrive, et c'est de plus en plus sec, à tel point qu'elle s'assèche et qu'elle perd progressivement ses pouvoirs. Et à un moment donné, elle n'en peut plus et elle explose et ses larmes sortent d'un coup et elles inondent complètement le monde. Et en inondant le monde, elle rabat un peu les cartes et tous les hommes, les poissons, les animaux, tout s'entremêle dans un nouveau territoire où chacun est plus au même niveau, il n'y a plus de différence qui passe avant qui. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans ce travail-là que j'ai appelé la part fluide du monde, j'ai proposé des photos qui sont très grisées, elles ne sont pas contrastées, pour donner l'impression d'être sous l'eau, en fait, que tout est sous l'eau. Et il y a par exemple un très gros poisson qui est plus gros que les humains et joue un peu justement sur le voilà. Et ces poissons-là, justement, je les ai obtenus d'un partenariat avec la CNR qui a construit des passes à poissons en compensation écologique pour les barrages et pour permettre justement aux poissons de pouvoir divaguer, parce qu'ils ne peuvent plus divaguer. Et du coup, je trouvais ça vraiment intéressant de reprendre des images, j'ai repris des images vidéo qui sont capturées à des fins scientifiques, mais qui ne sont pas du tout montrées. Alors, je trouve ça vraiment intéressant de voir ça. J'ai voulu quand même les réapproprier. Donc j'ai fait tout un travail plastique à partir de ces images que j'ai retravaillées à partir de mes images d'eau. Et après, j'ai fait aussi un travail sur la matière avec des tirages qui sont des tirages en gravure photo et en platine palladium, en fait, qui est une technique ancienne et qui redonne une matière précieuse en fait à ces tirages qui sont tirés de captures vidéo.
L'artiste et le photographe en particulier ont un rôle à jouer dans la préservation de l'eau, on en parle beaucoup en ce moment.
Alors il y a des artistes qui sont plus ou moins engagés. Moi je suis plus engagée dans la poésie, mais qui permet de re-questionner le monde. Donc indirectement, soulever des questions. Mais je tranche pas, chacun se fait son avis, mais déjà de repenser un peu différemment les choses, de mettre les choses à... Mon engagement il est plus quand je travaille avec des gens. Et là, j'utilise vraiment la photographie comme un outil de lien social pour recréer du lien par la création. Et donc, mon engagement, il se trouve, il est plus marqué à ce niveau-là dans ce travail toujours préparatoire et documentaire que je fais sur des territoires et avec des gens. Donc, oui, je trouve que c'est un mode assez intéressant parce que la photographie, ça questionne beaucoup l'identité, puisque souvent, être pris en photo ou prendre une photo, c'est pas anodin. Il y a vraiment la question de l'image de soi. Et donc je trouve que c'est un outil assez particulier, surtout quand on travaille avec des personnes en situation de handicap. C'est, la question de l'image de soi est difficile, ou avec tout type de public, parce que finalement, c'est toujours difficile de se faire prendre en photo, de prendre des photos, et parce que ça touche quelque chose quand même de profond. Donc je trouve que c'est un médium assez adapté pour créer du lien et pour réfléchir avec les autres.
Photographie, mais aussi gravure et vidéo, l'expo Dérive est visible jusqu'au 1er juillet à l'Orangerie du Parc de la Tête d'Or.